Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui nous arrivons à l'étude numéro 6 concernant le salut. Et le titre sera « Quelle est la vie, on peut dire, de tous les jours, la vie quotidienne d'un chrétien ?» Quelle est la vie quotidienne d'un chrétien ? La Bible nous dit « Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et vous avez les confirmations dans Saint Jean, chapitre 3, verset 16 et le verset 36, ainsi qu'au chapitre 17, verset 3. Chers amis, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains chapitre 5, versets 8 et 18. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. Ensuite, il est dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, et ceci afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, et à cause de cela même, faites tous et tous vos efforts pour pouvoir joindre à votre foi la vertu, oui, la vertu, la science, et la science, la tempérance, et à la tempérance, la pratique, à la patience, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est confirmé par la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3 à 8. Voyez-vous, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde et par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, et ceci afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est écrit dans Tite, chapitre 3, versets 4 à 7. Ensuite, il est dit dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10, « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Et le salaire du péché, comme vous le savez, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. Chers amis, tout d'abord, nous avons la vie de famille. La Sainte Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Premièrement, nous avons le culte de famille, donc la lecture quotidienne de la Bible. Consultez donc le livre de l'Éternel et lisez Ésaïe 34, verset 16. Il est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. Ils, les habitants de Bérée, reçurent la sainte parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les saintes écritures. Actes chapitre 17, verset 11. Les saintes lettres peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture sainte est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et qu'il soit propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3 verset 15 à 17. Nous aurons la prière et les louanges quotidiennes. C'est important, car il est dit dans le psaume 145, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton saint nom, et ceci à toujours et à perpétuité. » Psaume 145, versets 1 et 2. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus-Christ se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Saint Marc, chapitre 1, verset 35. Ensuite, notez Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Là, il est dit, « Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, et ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, versets 18 à 20. Deuxièmement, nous avons le mariage. Il est institué par Dieu pour cette vie terrestre. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'achètera, surtout pas, car on ne peut pas acheter comme il y a peut-être quelques siècles, et dans certains pays, une femme. Alors je répète, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et même s'il n'a pas beaucoup de fortune ou une dot importante, il va simplement s'attacher de tout cœur et avec beaucoup de gentillesse à sa bien-aimée épouse. Et ils deviendront ensemble une seule chair. Une seule chair. Ils sont unis, unis pour toujours. Genèse chapitre 2, versets 18 et 24. Et dans Saint Matthieu, au chapitre 19, versets 4 à 6, le Seigneur Jésus-Christ dit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera, on a de nouveau ce mot, et il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas, et même jamais, ce que Dieu a joint. » Saint Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Le choix d'une compagne est forcément important. Il est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles, avec des non-croyants, ou avec des qui sont d'autres croyances, sous un joug étranger. Car qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15. La conduite du mari et de la femme est très importante. Il est dit dans Éphésiens chapitre 5, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. » Éphésiens 5, versets 25 et 28. « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, par exemple l'intercession, et puis retourner ensemble de peur que l'ennemi Satan ne vous tente par votre incontinence. 1 Corinthiens chapitre 7 versets 3 à 5. Une femme est donc liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Et ceci est valable également pour l'homme. Concernant la chasteté, troisièmement, concernant la chasteté. Eh bien, nous avons dans Saint Matthieu, chapitre 5, verset 8, le verset suivant. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et le Proverbe, chapitre 5, verset 18, verset 3 à 5, nous dit « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants, et ses pieds descendent vers la mort. » Proverbe 5, verset 18, ainsi que les chapitres 3 et 5 sont aussi importants. Proverbe. Il est dit en Hébreu, chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous, c'est important cela, et que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreu 13, verset 4. Du reste, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Il dit aussi, quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle, dans son cœur, dans son esprit. Si ton œil droit et pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne, en enfer. Saint Matthieu, chapitre 15, versets 19 et 20, ainsi que toujours Saint Matthieu, mais cette fois chapitre 5, versets 28 et 29. Ne vous trompez pas, nous est-il dit, car ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les ivrognes n'hériteront le royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, fuyez l'impudicité. Votre corps, il est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9, 10 et les versets 15 à 20. Il est dit dans Romains chapitre 13, versets 13 et 14, « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure et de l'impudicité, ainsi que des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ce qu'un homme aura semé, nous est-il dit dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Or celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair. Il moissonnera ainsi aussi la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit et il aura la vie éternelle. Concernant la séparation et le divorce, la Bible nous dit dans Saint Marc chapitre 10, le Seigneur Jésus a dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet tout simplement, qu'il le croit ou pas, un adultère. Un adultère à l'égard de sa femme, c'est terrible. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet également un adultère. Vous pouvez vérifier Saint Marc, chapitre 10, versets 11 et 12. Du reste, l'apôtre Paul nous dit, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. » Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 et 11. Et quatrièmement, il y a quelque chose de sérieux pour les parents et les enfants. Le psaume 127, verset 3, nous dit par exemple « Voici tes fils sont un héritage de l'Éternel. Ils sont le fruit des entrailles et une récompense. » Au sujet de l'éducation des enfants, la Bible nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe 22, verset 6. Et nous pouvons noter Saint Matthieu, chapitre 18, versets 5 et 6. Là, il est dit que le Seigneur, lui, qui nous parle, a dit que quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, il me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ses petits-enfants qui croit en moi, alors il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Donc, attention, ne pas faire des choses qui sont gravement répréhensibles. Jamais. Soyons donc sérieux, soyons droits. Celui qui ménage sa verge, là aussi, on croit que donner une petite fessée quand c'est vraiment quelque chose que l'enfant a fait qu'il aurait vraiment pas dû faire, eh bien, il aime son fils s'il lui donne une petite fessée. Mais il aime absolument pas son fils s'il ne le corrige jamais. Car celui qui l'aime cherche à le corriger. Proverbe chapitre 13, verset 24. Attention, ne pas mal interpréter ce que je vais dire ou ce que je viens de dire. Voyez-vous, un homme ou une femme violent, méchant et colérique qui frappe par méchanceté, ça, c'est toute autre chose et interdit. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit, il faut parfois donner une fessée à son enfant quand il a fait quelque chose qu'il aurait vraiment pas dû faire et qu'il sait très bien qu'il aurait pas dû le faire. Vous avez bien compris la différence. Je l'espère bien. Au sujet de la conduite des enfants, eh bien là aussi la Bible dit quelque chose. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est absolument juste. Il est dit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc, là aussi, l'enfant a des devoirs, pas seulement les parents, c'est donc réciproque. Ensuite, nous avons la vie personnelle. Premièrement, nous avons le manger et le boire. Dieu est celui qui donne. Il dit dans Romains, non, c'est pas Romains, pardonnez-moi, c'est dans le psaume 104, versets 1 et 14. Psaume 104. Là, il est dit, mon âme bénit l'Éternel, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Psaume 104, versets 1 et 14. Et dans notre prière, rappelez-vous, nous disons, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Saint Matthieu 6, versets 9 et 11. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit également, toujours dans Saint Matthieu chapitre 6, mais versets 31 et verset 32, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous » car votre Père Céleste, il sait très bien que vous en avez besoin. Concernant ce que nous pouvons manger, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Rien d'extérieur ne peut, en entrant dans l'homme, le rendre impur. Cela n'entre pas dans son cœur, dans son esprit, mais dans son ventre. » Il montrait ainsi que, au fond, tous les aliments que nous mangeons habituellement sont purs. Saint Marc, chapitre 7, versets 18 et 19. Bien sûr que si vous regardez un jour dans l'Ancien Testament, tel que le livre du Lévitique, vous verrez des indications qui sont fort intéressantes. Intéressantes pour notre santé. Voyez-vous, notre bon sens, le minimum de bon sens que nous avons, suffit de comprendre que manger des rats ou des porcs et des poules qui sont élevés en masse, pas les rats, mais tout de même, c'est la même chose, il ne faut pas manger des rats, jamais, ni des souris. Donc, je répète, certaines choses qui sont élevées dans des batteries à grande échelle pour faire vraiment beaucoup d'argent, sans scrupule que les poules aient pas de plumes, qu'ils soient aveugles, que les porcs sont dans un état épouvantable et tout juste qu'ils puissent tenir sur leurs jambes car ils sont entassés comme des sardines, eh bien, ces façons d'élever en masse, c'est inhumain. Et c'est pas seulement inhumain pour les animaux. Ce n'est pas du tout indiqué de manger des choses comme ça. Car ça, tous les coups, vous allez détruire votre santé. Donc, je pense que nous devons faire attention à ce que nous mangeons quand même aujourd'hui, où tout est basé que sur faire de l'argent le plus vite possible. Et n'oublions pas non plus de rendre grâce à Dieu avant le repas. Dieu a créé les aliments pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 1 Timothée chapitre 4, verset 3. Saint Paul, il exhorte tout le monde à prendre de la nourriture, et il prit du pain, nous est-il dit, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Acte des Apôtres, verset 27, chapitre 27. Acte des Apôtres, chapitre 27. Et les versets seront 33 et 35. Deuxièmement, il y a la fameuse question des vêtements. L'Éternel Dieu dit que quand il a donc fait des vêtements pour Adam et pour sa femme, Ève, il a pris des peaux d'animaux. Donc l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Genèse chapitre 3, verset 21. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas de quoi serons-nous vêtus, car votre Père Céleste sait très bien que vous en avez besoin. Saint Matthieu chapitre 6, verset 31 et 32. Et ensuite, la Bible dit également, « Femmes, vous, les femmes, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure, elle est cachée dans le cœur. C'est la pureté qui est incorruptible d'un esprit doux et paisible, ce sera beaucoup plus important. Et tout cela aura un grand prix devant Dieu. Premier épître de Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Cela ne veut pas dire que la femme doit se laisser aller. Surtout pas. Elle doit essayer de plaire à son époux, à son mari. C'est important. Et elle n'y perdra pas en faisant cela. Ça coûtera un peu d'argent pour le mari, mais ça en vaut la peine. Troisièmement, il y a la propreté. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, car l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. » Il viendra devant tout le peuple. Exode chapitre 19, versets 10 et 11. Et notre ami saint Paul nous dit, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Et puis, vous pouvez noter Hébreux chapitre 10, verset 19 et 22. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous avec un cœur sincère, sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, que notre conscience soit purifiée et le corps qu'il soit lavé d'une eau pure, pure de corps extérieur et pure de corps intérieur. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 22. Quatrièmement, nous avons la conversation. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Et là, je me pince le nez, parce que des fois, je m'oublie. Donc, je demande au Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la discipline sur ma bouche, je t'en prie. Nous pouvons donc pas dire n'importe quoi. L'Éternel met une garde à ma bouche. Il veille sur la porte de mes lèvres. Psaume 141, verset 3. Notre ami David avait déjà bien compris cela. Et Saint Matthieu, chapitre 12, verset 37, confirme « Par tes paroles, tu seras justifié, mais également par tes paroles, tu pourrais être condamné. » Donc, faisons attention. Comment nous faut-il parler ? Eh bien, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Il y en a qui jurent, il y en a que vraiment ça fait peur, suivant lesquels on peut entendre quand ils sont en colère. Tu ne prendras point le saint nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Exode chapitre 20, verset 7. Le Seigneur Jésus-Christ dit également « Ne jurez aucunement que votre parole soit oui, oui, ou alors non et non. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Saint Matthieu chapitre 5, verset 34 et 37, ainsi que Saint Matthieu chapitre 7, verset 1. Et nous avons la vie sociale. Là, il y a quelque chose aussi intéressant dans Saint Matthieu, chapitre 5, verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Saint Matthieu 5, verset 16. Premièrement, dans cette vie sociale, nous avons les autorités, tout d'abord. Oui, dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Saint Matthieu 22, verset 21. Dans l'Église, eh bien, dans l'Église, obéissez à vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ce n'est pas bon de les critiquer sans arrêt. Ça n'amènera à rien, bien au contraire. Et là, vous pouvez noter Hébreux, chapitre 13, verset 17. Ça peut même être dangereux. Deuxièmement, il y a le travail et le service. Oui, la volonté de Dieu, c'est que les hommes doivent travailler. L'Éternel Dieu a pris l'homme et il l'a placé dans le jardin d'Éden pour cultiver la terre et pour le garder. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Genèse chapitre 3, verset 23. Oui, il n'a pas chassé avec plaisir, parce que l'homme s'est mal conduit, il a désobéi, évidemment. L'apôtre Paul nous écrit, « Nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, » Vous voyez, ça c'est important. Il faudrait que vous lisez cela attentivement, je vous donnerai l'indication. Donc Saint Paul nous dit, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, alors qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui ne travaillent pas, probablement ils ont un poil dans la main, mais qui s'occupent de futilité. Par contre, pour faire certaines choses, ils ne sont pas fatigués. C'est connu. Je ne veux pas dire lesquels. Mais c'est vrai. Mais pour travailler régulièrement, ils sont fatigués. Nous invitons donc ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, et ceci en travaillant paisiblement. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10 à 12. Vivre simplement sur le dos des autres, c'est déshonorant. Bien sûr que si quelqu'un est invalide, c'est toute autre chose. Mais si quelqu'un est, et je utilise un mot qui est, je crois, argot, un mot que tout le monde comprend, s'il est fainéant, eh bien, ça n'arrangera pas les choses. Et comment le travail doit être fait? Saint Luc, chapitre 16, verset 10, nous dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, il l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, le sera aussi dans les grandes. Oui, je crois que ça tient debout. Voyez-vous. Ensuite, quatrièmement, nous avons la question de l'argent et la question des biens. Il y a l'importance dans l'honnêteté. Restons toujours honnêtes. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain. Exode chapitre 20, verset 15 et 17. Oui, c'est important de ne pas dérober, aussi de ne pas faire des choses frauduleuses, car celui qui fait ces choses, Dieu le condamnera. Donc ne faisons pas à notre prochain des choses que nous n'aimerions pas qu'il nous fasse. Sachez, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, alors je lui rends le quadruple. » Jésus-Christ lui dit, « Le salut est vraiment entré aujourd'hui dans cette maison. » Alléluia. Saint Luc, chapitre 19, versets 8 et 9. Que notre cœur ne s'attache pas à l'argent. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, n'entassez pas sans arrêt où la teigne et la rouille détruira un jour ces choses, et aussi où les voleurs percent et dérobent, fracassent les portes d'entrée de vos appartements. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, ce sera beaucoup plus important. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est joli ça, c'est bien dit. Car là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, qui est l'argent. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 19 à 21, ainsi que le 20, verset 24. On peut être persécuté pour la justice, et cela sera le lot de beaucoup d'entre nous dans les derniers temps que nous vivons, hein? Oui, prenons donc comme modèle notre Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, le serviteur, il n'est pas plus grand que son maître. N'oublions jamais cela. Car s'ils m'ont persécuté, moi Jésus-Christ, croyez-moi, ils vous persécuteront également. Saint Jean, chapitre 15, verset 20. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, on mettra même les mains sur vous, et l'on vous persécutera, on vous jettera en prison, tout simplement à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoin et de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Ça ne sert à rien, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint de votre Père qui parlera en vous et par vous. Ne craignez donc pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme et votre esprit, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et l'esprit, ainsi que le corps tout entier, votre être total, dans la géhenne, en enfer. Et vous pouvez noter Saint-Luc chapitre 21, versets 12 à 15, ainsi que Saint-Matthieu chapitre 10, versets 20 et 28. Il dit du reste aussi, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, bien que ce n'est pas drôle du tout, car le royaume des cieux, il sera à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, car vous, qu'on vous persécutera même, et peut-être qu'on dira même des choses fausses, des mensonges sur vous, des calomnies. Et tout cela à cause du Saint Nom de Jésus-Christ. Alors, dans ce cas, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Ça, c'est réconfortant. Car votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Qu'est-ce qu'ils ont été persécutés, martyrisés, torturés? Vous serez haïs de tous, tout simplement à cause de mon Saint-Nom, tout simplement parce que vous croyez en Jésus-Christ, en votre Sauveur et Seigneur, que vous l'aimez, vous serez terriblement maltraités. Vous serez haïs de tous à cause de mon Saint-Nom. Mais celui qui persévérera, ça c'est important, demandant la grâce de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Et si nous arrivons à persévérer jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Et là, vous pouvez noter Saint Matthieu, chapitre 5, versets 10 à 12, ainsi que Saint Matthieu, chapitre 10, verset 22. Nous avons également la question des faux cultes et de l'idolâtrie. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais ça ne sert à rien de calomnier, de dire des méchancetés. Disons simplement une ou deux choses, on a le droit, c'est même notre devoir. Prenons le deuxième livre de Moïse, Das zweite Buch Moses, qui est en français Exode. Exode chapitre 20, versets 4 et 5. Dieu a dit, « Tu ne te feras point d'image taillée. » Répétons cela. « Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle, surtout pas, et tu ne les serviras point. » Exode chapitre 20, versets 4 et 5. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras que lui seul. » Pas d'autre Dieu, pas d'autre philosophie. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 10. Du reste, l'apôtre Paul, il dit, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou encore à la pierre sculptée par l'art et par l'industrie, etc. Non, non, non. Faisons attention à ces choses, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je mangerai au milieu d'eux, je marcherai surtout au milieu d'eux. Alors je vous répète pour que ce soit bien compris et que je ne fasse pas une faute de dicton, car nous sommes tous le temple du Dieu vivant. Et c'est Dieu qui l'a dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18, il a dit qu'il habitera et qu'il marchera au milieu de nous, avec nous. Il a dit, je serai leur Dieu, je serai votre Dieu, et ils seront mon peuple. Il sera donc pour nous. Nous serons tous son peuple. Et c'est pourquoi il a dit, sortez du milieu d'eux. Sortons du milieu de certains milieux équivoques qui enseignent autre chose. Je ne veux pas nommer pour ne pas faire du tort, bien qu'on ne devrait pas avoir peur de nommer certaines choses. Hein? Sortez du milieu tel que la scientologie, tel que toutes ces choses qui ressemblent et qui se font croire que ce sont des religions sérieuses basées sur la Sainte Bible. Et ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous de tous ces gens-là. C'est ce que dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 16 à 18. Nous arrivons tout doucement à la fin. Il y a la question de la magie et des bonnes aventures. Ça, il y a dans chaque coin de rue bientôt, et dans tous les magazines, et dans tous les journaux, et sans compter la télévision, etc. Internet, tout ce que vous voulez. Les devins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. Zacharie, chapitre 10, verset 2. Prenons Deutéronome, chapitre 18. Quand on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel. Fuyons ces choses-là, même si parfois vous pensez que c'est attractif. Éloignez-vous de tout cela, je vous en supplie. Conclusion à tout cela, à tout ce que nous venons de voir ensemble. La mort, elle est la porte d'une vie plus riche, car nous allons tous mourir un jour. Même les milliardaires meurent. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui tous ceux qui sont morts. Or le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, les morts en Christ vont tous ressusciter en premier. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés carrément avec eux sur des nuées, et pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours pour l'éternité avec le Seigneur. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13, 14 et versets 16 et 17. Donc 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Chers amis, vous avez compris que tout cela est sérieux et nous devons prendre ces choses très au sérieux. Aussi, je suis sûr que si vous réécoutez tranquillement ce message, cette étude, et que si vous le faites avec tout votre cœur et sérieusement, vous pourrez ensuite faire une prière qui sera votre prière à vous, votre prière personnelle, car chacun d'entre nous a des problèmes différents. Et chacun, si vous écoutez à nouveau cette étude, chacun va se retrouver dans un de ces sujets que j'ai mentionnés et pourra prier pour que le Seigneur corrige s'il y a quelque chose à corriger, qu'il vous aide là où il y a un problème. Chers amis, à bientôt à nouveau pour de nouvelles études et n'oublions pas que la vie qui nous reste, c'est très sérieux et ça vaut la peine de s'attarder parfois, malgré que on n'a pas le temps, malgré que tout va d'une vitesse épouvantable. Prenons un minimum de temps, au moins, pour la prière, au moins. À bientôt à nouveau, mes chers amis. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.